Ils sacrifient leur vie au nom de la paix. Ils n'ont qu'un seul devoir, servir les peuples et les nations en conflit. Ils n'ont qu'un objectif, installer le dialogue et repousser les frontières de la violence. Rendons hommage à leur engagement. Le 29 mai, journée internationale des casques bleus.
Malformations crânio-faciales, quelles sont les causes et moyens de prévention? Vous savez, certains enfants naissent avec des malformations et anomalies du crâne et de la face. Cela affecte beaucoup les parents et soulève plusieurs inquiétudes. Le bec de lièvre est l'une des malformations la plus fréquente, affirment les spécialistes, mais cela peut être corrigé. Comment? Nous allons en savoir plus avec notre invité. Il s'agit du docteur Aimé Lokolutu. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste en santé publique et directeur régional de Operation Smile. Alors docteur, parlez-nous de ces malformations crânio-faciales.
Oui, les malformations crânio-faciales, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, ce sont des malformations ou bien des difformités qui sont localisées au niveau de la face ou bien au niveau du visage de la personne. Mmh. Et il y en a plusieurs qui existent à travers le monde.
Lesquels?
Bon, par rapport à ce que ce dont nous nous occupions, c'est beaucoup plus les malformations qu'on appelle les fentes labiales et ou palatines. Pourquoi et ou palatines? Parce que parfois ces malformations peuvent être localisées au niveau des lèvres supérieures. Il peut y avoir une fente ou bien deux fentes. Et puis, il y a aussi une ouverture au niveau du palais, c'est-à-dire le plafond de la bouche. Mmh. Alors là, on appelle ça une, fente palatine, parce que c'est le palais. Mmh. Alors, ce sont ces malformations-là dont nous nous occupions. Mmh. Mais il y a aussi d'autres malformations qu'on appelle craniosynostésie, c'est-à-dire...
C'est des termes beaucoup plus simples.
Oui, c'est ça que je cherche à trouver des termes beaucoup plus simples. C'est-à-dire que ce sont des malformations du crâne. C'est-à-dire on voit, parfois c'est comme s'il y a une masse au niveau de la tête de la personne. C'est-à-dire une espèce de croissance qu'il y a à ce niveau là-bas. Mm. Ou bien d'autres malformations au niveau des mâchoires, c'est-à-dire vraiment des difformités qui sont à ce niveau là-bas. Donc c'est ça les différentes malformations qui ont été répertoriées comme étant les plus communes par rapport à un rapport de l'OMS que nous avons eu à parcourir.
Et comment se présentent les statistiques aujourd'hui?
Les statistiques aujourd'hui...
Par rapport au bec de lièvre?
Bon, par rapport au bec de lièvre, nous disons qu'à travers le monde, il y a un enfant sur 600 qui naît avec une fente labiale ou palatine. Et si nous devons prendre, par exemple, sur 15 000 enfants qui sont nés par heure dans le monde, il y a un enfant, quelque part dans ce monde, qui est né avec une fente, et cela se passe chaque 2 minutes et demie.
Mmh. Mais on n'a pas encore des statistiques pour notre pays, hein, pour la République démocratique du Congo.
Malheureusement, par rapport à la République démocratique du Congo, on n'a pas de registre, c'est-à-dire qui collecte des données par rapport aux naissances des enfants qui ont ce genre de problème.
Mais le problème est réel.
Le problème est réel parce que depuis que nous avons commencé à organiser l'émission, ici en 2009, nous avons déjà opéré 541 enfants et adultes. Cela veut dire que le besoin est là. Et depuis que nous avons commencé cette campagne à travers les médias que vous mettez à notre disposition, nous recevons beaucoup d'appels de partout, de Kikapa, de Kisangani.
Par rapport au bec de lèvres, c'est par rapport au bec de lèvres. La fissure au niveau des lèvres.
Oui, la fissure au niveau des lèvres, oui. Donc, il y a quand même beaucoup d'appels. Donc, il y a un besoin qui existe. Et nous avons même été à Lubumbashi. Et là aussi, nous avons pu aussi identifier beaucoup de cas. Donc, il y a un problème réel ici en République démocratique du Congo par rapport au fond de la territoire.
Alors, quelles sont les causes de cette fente, de cette fissure au niveau des lèvres?
Bon. À ce jour, c'est-à-dire les connaissances scientifiques exactes n'ont pas encore déterminé les causes réelles. C'est comme je le disais tout à l'heure dans les couloirs quand on discutait. Mm-hmm. Ce genre de pathologie chirurgicale, ce sont des maladies qui sont orphelines. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de ressources qui sont disponibilisées pour conduire de recherches. Dans la mesure, peut-être que ce n'est pas vraiment une situation qui menace la vie de l'enfant directement, bien qu'on enregistre des décès liés, par exemple, à malnutrition ou bien faible prise de produits des infections, parce que ces enfants ne savent pas boire, ces enfants sont sujets à des infections. Mm-hmm. Mais ce n'est pas encore, même dans l'agenda des Millennium Development Goals, c'est-à-dire les goals du millénaire, c'est-à-dire les objectifs du millénaire, cette pathologie ne figure même pas parmi les programmes.
Docteur, certains pensent que les malformations comme ça, c'est lorsque, par exemple, il y a une prise des médicaments sans consultation, donc l'automédication, ça peut conduire à des malformations.
Il y a des présomptions, justement, pour revenir à la première question que vous m'avez posée pour savoir quelles sont les éventuelles causes. Il n'y a que des présomptions. On sous-entend peut-être qu'il y aurait des facteurs environnementaux, peut-être liés à l'alimentation, peut-être liés à une carence en acide folique, ou bien peut-être une exposition à certains facteurs liés à l'environnement, mais qui n'ont pas encore été clairement identifiés. Et c'est ainsi que même depuis 2010, Operation Smile, en collaboration avec une université américaine à travers le monde, est en train de conduire une étude qui s'appelle International Family Study, au cours de laquelle on est en train de prélever, on fait des prélèvements salivaires pour essayer d'identifier s'il y a des facteurs d'ADN que ces enfants ont en commun, et puis on est aussi en train d'investiguer, c'est-à-dire par rapport à leur mode de vie, leur alimentation, pour voir si ceux qui ont ce problème ont un dénominateur commun comparé par rapport à ceux qui n'ont pas ce problème-là. Donc, les études sont encore en cours.
En cours. Alors, les personnes qui ont ces fentes-là au niveau des lèvres, au niveau du palais, est-ce qu'elles arrivent à manger normalement ou à s'exprimer
Commençons d'abord par l'enfant. C'est très difficile d'ailleurs pour l'enfant de bien manger parce qu'on sait que les bébés doivent téter. Et il faut avoir les lèvres, c'est-à-dire qui sont bien formées pour agripper le mamelon de la maman et sucer. Et les enfants, comme vous avez pu voir dans les images, qui ont ces malformations, ils ne savent pas téter. Ce qui veut dire qu'ils ne peuvent pas s'alimenter, ce qui veut dire qu'ils auront une faible immunité, ce qui veut dire qu'ils auront un faible poids, et ils sont prédisposés, c'est-à-dire à ne pas bien évoluer. Et quand bien même ils franchissent cette étape-là, ces enfants subissent beaucoup de discriminations d'ordre social, c'est-à-dire ils ne peuvent pas être...
On va se moquer d'eux par les amis, les copains.
C'est pas qu'on va se moquer d'eux, on se moque d'eux. Il y a même une maman qui avait dit que, docteur, nos enfants sont ce qu'on appelle les oubliés de Dieu.
C'est-à-dire
que ces enfants, lorsqu'ils vont dans les églises, personne ne veut s'asseoir à côté d'eux. Et quand bien même on demande parfois, pour tous ceux qui ont des problèmes, on veut faire des miracles pour eux, les handicapés en voie, ils marchent, les aveugles retrouvent la vue, mais ces enfants, quand même bien on accepte d'imposer les mains, rien ne se passe. Et parfois même quand ils reviennent, après ça c'est l'expérience de la maman là, elle me dit, après on ne veut même pas les recevoir. Pas le serviteur de Dieu, parce que, bon, écoute, c'est pas peut-être...
Parce qu'il est là, il y a une bouche déformée, avec des dents qui apparaissent.
Oui, qu'on ne sait pas faire un miracle pour reconstruire immédiatement le visage.
On va y revenir tout à l'heure, le temps de recueillir la question de Martin, qui nous appelle d'Ecolozi. Il est dans la province du Katanga. Martin, bonjour. Martin, vous êtes en ligne, bonjour.
Oui, bonjour, je suis en ligne.
On vous écoute.
Bon, je voulais poser la question à l'invité. J'ai vu au village de quelque part là-bas, un enfant, il avait une malformation aux lèvres. Le papa avait dit que ce n'était pas son enfant. Qu'est-ce que lui peut conseiller à ce papa-là? Est-ce que c'est héréditaire ou ce n'est pas héréditaire cette maladie-là?
Docteur Rémy. Oui, c'est comme je disais tout à l'heure, il y a beaucoup de présomptions. Et les constats qui a été fait, qui arrivent, dans une famille où il y a déjà quelqu'un qui avait une fente de fente labiale ou palatine, qu'on puisse observer aussi cela, soit auprès d'autres membres de la famille. Et même au cours de certaines missions, on a déjà vu une maman qui a une fente qui vient se faire opérer avec sa fille qui a aussi une fente. Oui, ça on a vu ça au Rwanda. Donc c'est une possibilité. C'est une possibilité.
Oui, Martin, vous voulez dire autre chose?
Oui, je voudrais intervenir aussi. Est-ce que c'est héréditaire ou ce n'est pas héréditaire?
Donc, c'est comme je vous l'ai dit, c'est une possibilité que cela puisse se transmettre. Si dans les gènes du papa ou bien de la maman, il y avait cette composante-là, ça peut se transmettre à l'enfant. Mais sans pour autant que peut-être le papa lui-même ait eu ça visiblement. Mais ça peut se voir chez l'enfant.
Merci de nous avoir appelé, Martin. Charles, vous êtes à Colosie. Bonjour.
Bonjour, monsieur, j'ai dit Daniel Kachan.
On vous écoute.
Je salue aussi notre rabbi et notre...
Bonjour.
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 D'abord, en principe, l'hérédité en elle-même, c'est juste que même s'il y a le parent en quelque chose d'être réceptif, ça peut être conseillé, bien ça va toujours se faire dans le monde de l'hérédité. Et puis, mais aujourd'hui, je veux aussi profiter pour notre radio partenaire RTL et son frangier, hein, souvent que c'est une commune à Metz. Et puis, notre est-ce que c'est notre radio partenaire, c'est la radio Cassine et Sandier.
Oui, nous sommes au courant, monsieur Charles, mais s'il vous plaît, veuillez répéter la question parce qu'on n'a pas très bien saisi.
J'ai dit ceci. L'hérédité en elle-même, si les parents ont présentent des actes qui sont hérétiques et des manifestations qui sont hérétiques, cela peut se répercuter encore sur l'enfant. Dans notre esprit, c'est une question.
Il revient encore sur l'hérédité.
Oui, c'est-à-dire que c'est une question parce que ce qu'il évoque là, c'est une loi de Mendel qu'on connaît, c'est-à-dire lorsque les deux parents ont des gènes récessifs, mais lorsqu'ils se rencontrent, les enfants, la probabilité que les enfants puissent avoir développé, c'est-à-dire la pathologie qu'elle soit visible, donc, est là, tel qu'on le voit dans la drépanocytose et le daltonisme et les autres pathologies. Alors, quelle est la question qu'il pose? Parce qu'il a juste énoncé un principe de l'hérédité, mais quelle est la question qu'il pose?
Bon, il revient sûrement sur l'hérédité, il veut savoir si ça peut aussi se transmettre du père au fils.
Oui,
il y a déjà eu des cas comme ça, mais c'est pas...
Ça dit, pour pouvoir confirmer sur les ondes que voilà, c'est héréditaire, il va m'appuyer sur des recherches qui ont été certifiées. Jusqu'à présent, nous ne parlons que des présomptions, parce que j'ai devant moi même un rapport des Nations Unies qu'on appelle le Global Strategy, c'est-à-dire une stratégie globale pour réduire les anomalies crânio-faciales. C'est-à-dire même à ce niveau là-bas, ils ne parlent que des présomptions. Donc il y a des études qui sont en cours. Donc je ne peux pas, en tant que scientifique, confirmer, même si c'est fort probable, je ne peux pas confirmer tant qu'il n'y a pas des études qui ont, ou des recherches qui ont sanctifié avec des évidences que voilà, c'est transmis de façon héréditaire, telle que c'est par exemple pour le diabète, la drépanocytose et le daltonisme et d'autres pathologies.
Donc on peut dire que les causes, d'abord, vous avez dit tout à l'heure que les causes de cette malformation qu'on appelle bec des yeux ne sont pas clairement identifiées, il faut des études.
Oui.
Alors comment prévenir, est-ce que c'est possible de prévenir ces malformations?
C'est-à-dire pour prévenir quelque chose, il faut connaître la cause. Donc jusque-là, c'est difficile de prévenir cela, mais... c'est ainsi que nous mettons en place des mécanismes pour organiser une prise en charge précoce, par exemple, de ces enfants. C'est-à-dire, l'un de nos objectifs en collaboration avec le ministère de la Santé, c'est de voir comment créer un registre national où on enregistre directement les enfants, par exemple, qui sont nés comme ça. Ce qui se fait dans d'autres pays qui sont très développés, on opère les enfants dès la naissance pour éviter tout ce qui est risque, par exemple, périnatal, et puis tout ce qui est désagrément social que l'enfant pourrait subir quand il pourrait grandir. Et je crois que c'est un premier pas pour nous. Et même en enregistrant les patients de cette façon, ça facilite aussi de faire des recherches. Parce que là, on a des groupes cibles qui sont clairement identifiés. On peut interviewer les parents, on peut faire des prélèvements salivaires pour faire l'analyse d'ADN et pour pouvoir trouver des réponses.
Oui, alors docteur Aimé, est-ce qu'il y a un groupe cible ou une population particulière qui est souvent touchée par ce genre de déformation?
Bon, autrefois, on pensait que c'était plus un problème lié à l'Afrique, mais on constate qu'on voit ça partout, en Chine, en Méditerranée, aux États-Unis, au Japon. Donc, c'est une pathologie qu'on rencontre partout. La preuve, Operation Smile est présent dans 60 pays à travers le monde. Et
c'est quoi Operation Smile?
Operation Smile, en fait, oui, nous sommes une organisation humanitaire internationale dont le siège se situe aux États-Unis. Notre mission est essentiellement d'opérer gratuitement tous les enfants et adultes qui ont une fente labiale et ou palatine. Et depuis 1982, on a pu opérer environ 200 000 patients.
Ah, ici en RDC?
Non,
à travers le monde.
Non, nous sommes présents dans 60 pays, dans 13 pays africains, et en RDC, on est ici depuis 2009. Et ici, on a déjà pu opérer gratuitement 541 enfants. Et notre patient le plus âgé avait 84 ans.
84 ans?
Oui.
Et il a vécu toute sa vie avec...
Oui, il a vécu toute sa vie avec cette fente, grosse fente labiale, et c'est extraordinaire leur témoignage, c'est-à-dire, il dira, bon, durant un moment donné de sa vie, il rêvait d'essayer d'imaginer à quoi il pouvait ressembler s'il était normal. Et puis, il a perdu cet espoir. Et à 84 ans...
Et pourquoi il n'a jamais été opéré de tout ce temps?
Bon, peut-être la technique n'était pas à cette époque. Et puis, c'est une intervention chirurgicale qui coûte quand même assez cher, qui n'est pas à la bourse de tout le monde. Même les personnes qui ont de la classe sociale moyenne, parfois, ne peuvent pas s'offrir c'est une subspécialité. Soit il y a un problème d'accessibilité aux soins, ou bien quand les soins sont disponibles, mais peut-être la personne ne s'est pas payée, ou bien il n'y a peut-être pas le personnel qualifié pour pouvoir opérer correctement. Surtout les fentes palatines. Les fentes labiales, on arrive quand même... Au niveau de la déchirure qu'il y a au niveau de la lèvre, hein, ça, il y a certains médecins chirurgiens qui arrivent à le corriger. Mais quand on a une fente palatine, c'est-à-dire une ouverture au niveau de la bouche, du plafond de la bouche, ça, c'est très difficile à corriger. Il y a beaucoup de pays africains où il n'y a pas de gens qui peuvent corriger cela. Si vous voyez, ce sont des personnes qui parlent en nasonnant, c'est-à-dire qu'ils parlent comme si... avec leur nez.
Comment, par exemple,
je m'appelle... des personnes qui parlent comme ça.
Oui.
Et à chaque fois qu'ils mangent, ça passe de travers, ça sort par le nez.
Voilà, c'est dommage.
Oui.
Alors, depuis quelque temps, vous initiez des opérations, vous opérez ce genre de cas. Alors, comment se fait l'enregistrement, par exemple, des malades jusqu'à l'opération et comment se fait le suivi?
Jusqu'à présent, c'est-à-dire, nous avons travaillé sur un modèle où nous faisons une campagne de sensibilisation, nous donnons un numéro d'appel, les patients appellent pour avoir tous les détails, et puis ils s'enregistrent le jour même, le premier jour de la mission, comme pour cette fois-ci, c'est le 31 mai, c'est-à-dire le jeudi, sur le site, c'est-à-dire à la clinique Galema, c'est là qu'on les enregistre. Le premier jour et le deuxième jour, c'est l'enregistrement, bien le screening, c'est-à-dire ils sont consultés dans les différentes stations, parce qu'on a une équipe d'environ 60 personnes qui viennent. On a des chirurgiens plasticiens, des pédiatres, des logopèdes, anesthésistes qui évaluent ces patients. Le troisième jour, nous communiquons l'agenda des interventions chirurgicales, et du quatrième jusqu'au dixième jour, on ne fait que les interventions. On opère avec 6 tables.
Gratuitement.
Gratuitement. Gratuitement, et les patients sont logés à la clinique chinoise, qui est juste à côté de la clinique d'Aliema, et tout est pris en charge.
Bien, on va y revenir tout à l'heure. Le temps de recueillir la question de Martin qui nous appelle de Bounia. Vous voulez également participer? Composez le 081-890-63-94.
Lorsque le soleil se couche, toutes les infos se retrouvent sur la radio de la paix. Journaux en français, Swahili, Kiluba, Kikongo et Lingala. Synthèse de l'actualité africaine et internationale, économie, paroles d'enfants, rencontres avec les Congolais de l'étranger, inforoute et les infos sport toutes les demi-heures. Lorsque le soleil se couche, 17 à 19h, bienvenue dans Capissoir.
Bien, vous êtes sur Radio Okapi, Okapi Service parle aujourd'hui dans cette deuxième heure de l'émission de malformation et anomalie du crâne et de la face avec Dr Aimé Lokulupu, spécialiste en santé publique et également le directeur régional de Operation Smile. Martin, vous êtes à Bounia et Arsène à Bukavu. Martin, bonjour.
Oui, ce n'est pas Martin, c'est Michel.
C'est Michel de Bounia, on vous écoute.
Oui, je me vais demander de poser des questions à l'invité. La première question, j'aimerais savoir, est-ce que la loi médicale du Congo prévoit aussi les vaccins certains lors de la lorsque les mamans suivent quand même les kilos en télécommunément certaines, est-ce qu'il y a un vaccin qui prévoit pour prévenir ce genre de victimes? J'aimerais demander une fois si vous constatez quand même ce cas-là dans des quartiers. Quelles sont les procédures à suivre pour que les victimes soient quand même soignées gratuitement?
Merci, Michel de Bounia. Arsène, vous êtes à Bukavu. Bonjour.
Ok, bonjour. J'ai installé la radio Capi. Bon, je vois mon invité, il vient de donner la précision, mais il vient de donner la réponse à l'auditeur qui vient de poser la question, s'il était certain ou pas. Donc, je demande à mon invité, est-ce que vraiment il ne peut pas préciser l'auditeur là qui a posé la question, s'agissant de la malformation et le fait que c'est au quoi? Parce que, selon moi, je vois que c'est l'ancien parce que aussi, dans le domaine médical, ici, c'est une fois santé publique. Il serait mieux qu'il lui donne une question parce que le voyage de famille, je ne sais pas si c'est le nom, Il y a des enfants toujours mal formés, bon. Il y avait ces Mongols, ces parfaits de l'enfant, mais il est pas ça, bon. Il est toujours comme ça. Donc, moi, je vois que c'est l'interne. Autre question que je demande, est-ce que la malformation, c'est une part souvent au problème de la négligence de certains, bon. Parce que vous voyez, il y a des mamans, quand elle est grosse, bon. Elle mange beaucoup, elle fait pour des métissages d'aliments, bon. Souvent, l'enfant naît avec ses
Merci, Arsène, qui a une question confidentielle. Merci d'avoir appelé Dr. Aimé Lokoulutu. Voilà, la première question initiale, il dit, est-ce que le vaccin qu'on donne à la CPN peut prévenir ce genre de malformations?
Non. Ça ne peut pas prévenir ce genre de malformations parce que comme... d'abord, les vaccins qui sont donnés là, les vaccins antitétaniques et consorts qui sont donnés à la maman pendant la vaccination, c'est pour prévenir certaines pathologies ou bien maladies bien spécifiques.
Mm-hmm.
Donc, les produits qu'on injecte n'ont pas cette capacité de prévenir la survenue des malformations. Et par contre, je peux dire, c'est pendant la consultation prénatale, en fonction des connaissances scientifiques actuelles, on interdit à la femme, par exemple, de prendre certains produits pendant le premier trimestre parce que ça peut entraîner d'autres malformations telles que, par exemple, il y a des antipaludéens qu'on interdit, il y a certains antibiotiques qu'on interdit, il y a tout un tas de produits qu'on interdit pendant telle période de la grossesse. Mais pour notre problème actuel, c'est-à-dire les fentes labiales ou bien les déchirures qu'on a au niveau des lèvres ou bien l'ouverture qu'on a au niveau de la bouche, les connaissances scientifiques actuelles ne nous permettent pas sur base des évidences, d'incriminer tel ou tel facteur. Ce qui fait que il n'est pas aisé de prévenir cela. Par rapport à l'autre question,
il dit dans un quartier, quand on voit quelqu'un avec des souvent de malformation, où l'amener, qu'est-ce qu'il faut faire?
Ce qu'il faut faire théoriquement, comme à ce jour, il n'y a pas encore, peut-être à travers le pays, un système qui permet d'identifier ou bien d'enregistrer tous ces patients, c'est à travers des initiatives comme celle-ci qu'il est important que les gens sachent que voilà, il y a telle organisation qui est en place et on peut contacter telle personne à tel niveau pour se faire enregistrer. Parce que jusqu'à ce jour, il n'y a pas d'organisation qui s'occupe d'une façon spécifique de ce problème. Je sais qu'au niveau du ministère de la Santé, il y a le Programme national de personnes vivant avec handicap, qui travaille aussi en collaboration avec nous, qui, lorsque le besoin est là, est capable d'enregistrer ce genre de personnes. Mais il n'y a pas un système systématique, si je peux me permettre la répétition, qui est en place pour identifier et enregistrer les telles personnes.
Alors Arsène de Bukavu revient encore sur la réalité. Il dit, il a vu dans des familles les cas de malformations qui viennent du père au fils et de génération en génération. Il pense qu'il y a, une part de réalité dans tout ça.
Oui, il n'a pas tort. Mais c'est pour dire que il y a certaines pathologies qui aujourd'hui ont été clairement identifiées que ça, c'est d'origine héréditaire, que voilà tellement une formation quand, par exemple, les Mongols.
Les Mongols, c'est les enfants qui ont des...
qui ont des déficiences intellectuelles, qui ont une malformation aussi, et ce
sont
des macrocéphales, si je peux me permettre ainsi. Et ça, ça a été clairement identifié. C'est pour ça qu'on peut confirmer. Mais il y a une pléthore de malformations qui existent, et pour lesquelles on n'a pas encore mener des études pour confirmer. Parce que le tout, c'est au niveau de confirmation. En tant que scientifique, on ne peut pas confirmer quelque chose sans évidence.
Alors, Arsène parle de la négligence, certains moments qui négligent les sciences, les CPM et tout ça. Cela peut l'amener à avoir à mettre au monde des enfants avec une malformation.
Des enfants mal formés. Bon, au niveau des consultations prénatales, ce qui est théoriquement fait, on donne des conseils. À des moments, on donne des vaccinations, on suit l'évolution, c'est-à-dire de la grossesse, et évidemment, manquer à cela va certainement porter préjudice, potentiellement préjudice à l'enfant, parce que, bon, peut-être qu'il y a des, on pouvait prévenir la survenue de certains événements désagréables, mais par rapport à notre problème, comme je le répète encore, ce n'est pas encore démontré.
Ce n'est pas encore démontré. Alors, quel est, parlez-nous du traitement.
Le traitement.
De ces malformations, particulièrement du bec de lièvre.
Bon, les becs de lièvre, le traitement, la prise en charge, c'est une intervention chirurgicale. On ne peut pas...
Il n'y a pas d'autres
moyens. On ne peut pas la soigner de façon médicamenteuse. Donc, il faut une chirurgie plastique. Et l'intervention, c'est 45 minutes, c'est-à-dire le temps d'une mi-temps d'un match. 45 minutes.
45 minutes, oui. Voilà. Et après, la personne...
Après, la personne est gardée en post-opératoire pour revenir à ce que j'expliquais pour notre mission, c'est-à-dire les patients, quand ils sont opérés, passent la nuit à l'hôpital pour une journée, par exemple, pour ceux qui ont été opérés des becs de lièvre, et pour peut-être deux jours, pour ceux qui ont été opérés du palais, c'est-à-dire l'ouverture. Et ils sont gardés, ils rentrent au niveau de la clinique chinoise, où ils restent jusqu'à la fin de la mission. Et le dernier jour, nous faisons une évaluation totale de tous les patients. Pas seulement une évaluation clinique, mais on a aussi des logopèdes, c'est-à-dire des personnes qui sont là pour corriger le langage des enfants. Parce que ces enfants, ou bien ces personnes qui ont eu à grandir avec cette malformation,
ont des problèmes
de phonétique, de prononciation. Mmh. Alors, nos logopèdes donnent des exercices aux mamans qui vont répéter avec les enfants quand ils vont rentrer après pour savoir correctement formuler les mots. Mmh. Et après la mission, nous revenons toujours 6 mois après.
Alors, comment vous organisez ces missions comment vous arrivez à programmer? C'est par rapport au nombre de gens enregistrés ou des cas enregistrés dans une région que vous...
Non, c'est-à-dire par rapport au nombre de patients programmés. Par rapport au nombre de patients qui se présentent à la mission, nous avons une équipe pluridisciplinaire qui est en quelque sorte un panel qui détermine les patients en fonction de leurs priorités. Et c'est sur base de ça que nous pouvons dire, ok, nous allons opérer 240 patients. Et nous disons, ok, voilà, par jour, on va essayer d'opérer 60 patients. Et lorsqu'il y a une masse, on dépasse notre masse critique, les patients qui restent, nous leur donnons des cartes de rendez-vous pour la mission qui va suivre.
Généralement, vous organisez une mission après combien de temps?
C'est une fois par an, c'est-à-dire, par exemple, au mois de juin, nous avons la mission, au mois de décembre, nous avons la mission d'évaluation. Et la prochaine mission chirurgicale sera encore au mois de juin.
En 2013, oui.
Nous avions une autre mission, notre première mission chirurgicale qui va avoir lieu à Lubumbashi au mois de novembre, par exemple.
Au mois de novembre. Donc vous circulez dans tous les provinces.
Notre vision, c'est de nous étendre à travers toute la RDC parce que nous savions que les besoins sont énormes.
Bien, merci à Dr. Aimé Lokulutu, spécialiste en santé publique et le directeur régional de Operation Smile. Merci d'avoir répondu à nos questions et à la prochaine.
C'est moi qui vous remercie.